deux ans de vacances, chapitre 17. Préparatifs en vue du prochain hiver. Proposition de Brillant. Départ de Brillant, de Jacques et de Moko. Traversée du Family Lake. List River. Un petit port à l'embouchure. La mer dans l'est. Jacques et Brillant. Retour à French Den. Huit jours après, commençait l'année 1861, et pour cette partie de l'hémisphère austral, c'était en plein cœur de l'été que débutait le nouvel an. Il y avait près de 10 mois que les jeunes naufragés du Sloughi avaient été jetés sur leur île à 1800 lieues de la Nouvelle-Zélande. Pendant cette période, on doit le reconnaître, leur situation s'était peu à peu améliorée. Il semblait même qu'ils fussent désormais assurés de subvenir à tous les besoins de la vie matérielle. Mais c'était toujours l'abandon sur une terre inconnue. Les secours du dehors, les seuls qu'ils pussent espérer, arriveraient-ils enfin, et arriveraient-ils avant l'achèvement de la belle saison? La colonie serait-elle condamnée à subir les rigueurs d'un second hiver antarctique? Jusqu'ici, à la vérité, la maladie ne l'avait point éprouvée. Tous, petits et grands, s'étaient aussi bien portés que possible. Grâce à la prudence de Gordon, qui y tenait la main, ce qui ne laissait pas de provoquer parfois des récriminations contre sa sévérité, aucune imprudence, aucun excès n'avait été commis. Pourtant, ne fallait-il pas compter avec les affections auxquelles n'échappent que rarement les enfants de cet âge, particulièrement les plus jeunes? En somme, si le présent était acceptable, l'avenir restait toujours gros d'inquiétude. À tout prix, et c'est à quoi Brillant songeait sans cesse, il eût voulu quitter l'île Tchermann. Or, avec l'unique embarcation que l'on possédait, avec cette frêle yole, comment se hasarder à entreprendre une traversée qui pouvait être longue si l'île n'appartenait pas à un des groupes du Pacifique, ou si le continent le plus voisin se trouvait à quelques centaines de milles. Lors même que 2 ou 3 des plus hardis se fussent dévoués pour aller chercher une terre dans l'est, que de chance il y avait pour qu'ils ne parvinssent pas à l'atteindre. Quant à construire un navire assez grand pour traverser ces parages du Pacifique, le pouvait-il? Non, assurément. Cela était au-dessus de leurs forces, et Brillant ne savait qu'imaginer pour le salut de tous. Donc attendre, attendre encore, et travailler à rendre plus confortable l'installation de French Den, il n'y avait que cela à faire. Puis, sinon cet été, parce que la besogne pressait en prévision de la saison des froids, du moins l'été prochain, les jeunes colons achèveraient de reconnaître entièrement leur île. Chacun se mit résolument à l'ouvrage. L'expérience avait montré ce qu'étaient les rigueurs de l'hiver sous cette latitude. Pendant des semaines, pendant des mois même, les mauvais temps obligeraient à se confiner dans le hall, et il n'était que prudent de se prémunir contre le froid et la faim, les deux ennemis qui fussent le plus à craindre. Combattre le froid dans French Den, ce n'était qu'une question de combustible, et l'automne, si court qu'il fût, ne prendrait pas fin sans que Gordon eût fait emmagasiner assez de bois pour alimenter les poêles jour et nuit. Mais ne devait-on pas aussi songer aux animaux domestiques que renfermaient l'enclos et la basse-cour? Les abriter dans Storeroom, c'eût été une gêne excessive et même une imprudence au point de vue hygiénique. Donc, nécessité de rendre plus habitable le hangar de l'enclos, de le défendre contre les basses températures, de le chauffer en y établissant un foyer qui pût toujours en maintenir l'air intérieur à un degré supportable. C'est à quoi s'appliquèrent Baxter, Brillant, Service et Moco pendant le premier mois de l'année nouvelle. Quant à la question non moins grave de l'alimentation pour toute la durée de la période hivernale, Doniphan et ses compagnons de chasse se chargèrent de la résoudre. Chaque jour, ils visitaient les trappes, les pièges, les collets. Ce qui ne servait pas à la consommation quotidienne allait grossir les réserves de l'office sous forme de viandes salées ou fumées que Moco préparait avec son soin habituel. On assurait ainsi la nourriture, si long ou si rigoureux que l'hiver pût être. Cependant, une exploration s'imposait. C'était celle qui aurait pour but non d'explorer tous les territoires inconnus de l'île Tchermann, mais au moins la partie comprise dans l'est du Family Lake. Renfermait-elle des forêts, des marais ou des dunes? Offrait-elle de nouvelles ressources qui pourraient être utilisées? Un jour, Brillant conféra avec Gordon à ce sujet, en l'envisageant, d'ailleurs, d'une autre manière. Bien que la carte du naufragé Baudouin soit faite avec une certaine exactitude que nous avons pu constater, dit-il, il serait à propos de prendre connaissance du Pacifique dans l'Est. Nous avons à notre disposition d'excellentes lunettes que mon compatriote ne possédait point, et qui sait si nous n'apercevrions pas des terres qu'il n'a pu voir. Sa carte présente l'île Tchermann comme isolée dans ses parages, et peut-être ne l'est-elle pas? Tu poursuis toujours ton idée, répondit Gordon, et il te tarde de partir? Oui, Gordon, et au fond, je suis sûr que tu penses comme moi. Est-ce que tous nos efforts ne doivent pas tendre à nous rapatrier dans le plus bref délai? Soit, répondit Gordon, et puisque tu y tiens, nous organiserons une expédition. Une expédition à laquelle nous prendrions tous part? Demanda Brillant. Non, répondit Gordon, il me semble que 6 ou 7 de nos camarades... Ce serait encore trop, Gordon. Étant si nombreux, ils ne pourraient faire autrement que de tourner le lac par le nord ou par le sud. Et est-il sûr que cela n'exigerait pas beaucoup de temps et de fatigue? Que proposes-tu donc, Brillant? Je propose de traverser le lac dans la Yole en partant de French Den, afin d'atteindre la rive opposée, et pour cela, de n'aller qu'à 2 ou 3. Et qui conduirait la Yole? Moco, répondit Brillant. Il connaît la manœuvre d'une embarcation, et moi-même, je m'y entends un peu. Avec la voile, si le vent est bon, avec 2 avirons, s'il est contraire, nous enlèverons aisément les 5 ou 6 milles que le lac mesure dans la direction de ce cours d'eau qui, d'après la carte, traverse les forêts de l'Est. Nous descendrons ainsi jusqu'à son embouchure. Entendu, Brillant, répondit Gordon, j'approuve ton idée. Et qui accompagnerait Moco? Moi, Gordon, puisque je n'ai point fait partie de l'expédition au nord du lac. C'est à mon tour de me rendre utile, et je réclame. Utile? S'écria Gordon. Eh, ne nous as-tu déjà rendu 1000 services, mon cher Brillant? Ne t'es-tu pas dévoué plus que tout autre? Ne te devons-nous pas de la reconnaissance? Allons donc, Gordon, nous avons tous fait notre devoir. Voyons, est-ce convenu? C'est convenu, Brillant. Qui prendras-tu comme 3e compagnon de route? Je ne te proposerai pas Doniphan, puisque vous n'êtes pas bien ensemble. Oh, je l'accepterai volontiers, répondit Brillant. Doniphan n'a pas mauvais cœur. Il est brave, il est adroit, et n'était son caractère jaloux, ce serait un excellent camarade. D'ailleurs, peu à peu, il se réformera, quand il aura compris que je ne cherche point à me mettre ni en avant, ni au-dessus de personne. Et nous deviendrons, j'en suis sûr, les meilleurs amis du monde. Mais j'ai songé à un autre compagnon de voyage.
Lequel?
Mon frère Jacques, répondit Brillant. Son état m'inquiète de plus en plus. Évidemment, il a quelque chose de grave à se reprocher qu'il ne veut pas dire. Peut-être, pendant cette excursion, se trouvant seul avec moi... Tu as raison, Brillant. Emmène Jacques, et dès aujourd'hui, commence tes préparatifs de départ.
Ce ne sera pas long, répondit Brillant, car notre absence ne durera pas plus de 2 ou 3 jours.
Le jour même, Gordon fit part de l'expédition projetée. Doniphan se montra très dépité de ne pas en être, et comme il s'en plaignit à Gordon,
Celui-ci lui fit comprendre que, dans les conditions où elle allait se faire, cette expédition n'exigeait que 3 personnes, que Brian, en ayant eu l'idée, il lui appartenait de la mettre à exécution, etc.
« Enfin, répondit Doniphan, il n'y en a que pour lui, n'est-ce pas, Gordon ?»«
Tu es injuste, Doniphan, injuste pour Brian, injuste aussi pour moi. »
Doniphan n'insista plus et rejoignit ses amis Wilcox, Cross et Webb, près desquels il put, tout à son aise, épancher sa mauvaise humeur.
Lorsque le mousse apprit qu'il allait momentanément échanger ses fonctions de maître coq pour celles de patron de la yole, il ne cacha pas son contentement. L'idée de partir avec Brian doublait encore pour lui le plaisir. Quant à son remplaçant devant le fourneau de Storeroom, ce serait naturellement Service qui se réjouit à l'idée de pouvoir fricoter à sa fantaisie sans être assisté de qui que ce soit. En ce qui concerne Jacques, cela sembla lui convenir d'accompagner son frère et de quitter French Den durant quelques jours. La yole fut aussitôt mise en état. Elle gréait une petite voile latine que Moko enverga et roula le long du mât. 2 fusils, 3 revolvers, des munitions en quantité suffisante, 3 couvertures de voyage, des provisions liquides et solides, des capotes cirées en cas de pluie, 2 avirons avec une paire de rechange, tel était le matériel nécessaire à une expédition dont la durée serait courte, sans oublier la copie qui avait été faite de la carte du naufragé et à laquelle de nouveaux noms seraient ajoutés au fur et à mesure des découvertes. Le 4 février, vers 8 heures du matin, après avoir pris congé de leurs camarades, Brian, Jacques et Moko s'embarquèrent à la digue du Rio Zeeland. Il faisait un joli temps, une légère brise de sud-ouest. La voile fut hissée et Moko, placé à l'arrière, saisit la barre, laissant à Brian le soin de tenir l'écoute. Quoique la surface du lac fût à peine ridée de souffles intermittents, la yole sentit plus vivement l'effet de la brise lorsqu'elle se trouva un peu au large. Sa vitesse s'accéléra. 1 demi-heure plus tard, Gordon et les autres, en observation sur la rive de Spot Terrace, n'apercevaient plus qu'un point noir qui allait bientôt disparaître. Moko étant à l'arrière, brillant au milieu, Jacques s'était placé à l'avant, au pied du mât. Pendant 1 heure, les hautes crêtes d'Oakland Hill leur restèrent en vue, puis s'abaissèrent sous l'horizon. Cependant, la rive opposée du lac ne se relevait pas encore, bien qu'elle ne pût être éloignée. Malheureusement, comme il arrive d'ordinaire lorsque le soleil a acquis de la force, le vent marqua une tendance à mollir et, vers midi, ne se manifesta plus que par quelques volées capricieuses.
« Il est fâcheux, dit Brian, que la brise n'ait pas tenu toute la journée. »«
Ce serait bien plus fâcheux, monsieur Brian, répondit Moko, si elle était devenue contraire. »«
Tu es philosophe, Moko. »«
Je ne sais pas ce que vous entendez par ce mot-là, répondit le mousse. « Pour moi, quoi qu'il arrive, j'ai l'habitude de ne jamais me dépiter. »«
Eh bien, c'est précisément de la philosophie. »«
Va pour la philosophie, et mettons-nous aux avirons, monsieur Brian. »«
Il est à désirer que nous ayons atteint l'autre rive avant la nuit. »
Après tout, si nous n'y parvenions pas, il n'y aurait qu'à se résigner.
Comme tu dis, Moko, je vais prendre un aviron, toi l'autre, et Jacques se mettra à la barre.
C'est cela, répliqua le mousse. Si Monsieur Jacques gouverne bien, nous ferons bonne route.
Tu me diras comment manœuvrer, Moko, répondit Jacques, et je suivrai de mon mieux tes indications.
Moko amena la voile qui ne battait même plus, car le vent était absolument tombé. Les 3 jeunes garçons se hâtèrent de manger un morceau. Après quoi, le mousse se plaça à l'avant, tandis que Jacques venait s'asseoir à l'arrière, brillant, restant au milieu. La yole, vigoureusement enlevée, se dirigea en obliquant un peu vers le nord-est, d'après la boussole. L'embarcation se trouvait alors au centre de cette vaste étendue d'eau, comme si elle eût été en pleine mer, la surface du lac étant circonscrite par une ligne périphérique de ciel. Jacques regardait attentivement dans la direction de l'est pour voir si la côte n'apparaissait pas à l'opposé de French Den. Vers 3 heures, le mousse, ayant pris la lunette, put affirmer qu'il reconnaissait des indices de terre. Un peu plus tard, Brillant constata que Moko n'avait point fait erreur. À 4 heures, des têtes d'arbres se montraient au-dessus d'une rive assez basse, ce qui expliquait pourquoi, du sommet de False Sea Point, Brillant n'avait pu l'apercevoir. Ainsi, l'île Chairman ne renfermait pas d'autre hauteur que celle d'Auckland Hill, qui l'accidentait entre Sloughy Bay et Family Lake. Encore 2 miles et demi à 3 miles, et la rive orientale serait atteinte. Brillant et Moko maniaient leurs avirons avec ardeur, non sans quelque fatigue, car la chaleur était forte. La surface du lac était unie comme un miroir. Le plus souvent, ses eaux, très claires, en laissaient voir à 12 ou 15 pieds le fond hérissé d'herbes aquatiques entre lesquelles se jouaient des myriades de poissons. Enfin, vers 6 heures du soir, la yole vint atterrir au pied d'une berge au-dessus de laquelle se penchait l'épaisse ramure des chênes verts et des pins maritimes. Cette berge, assez élevée, ne se prêtait guère à un débarquement, et on dut la suivre pendant 1/2 mille à peu près, en remontant vers le nord. « Voilà le rio porté sur la carte, » dit alors Brillant. Et il montrait un évasement de la rive par laquelle s'écoulait le trop-plein des eaux du lac. « Eh bien, je crois que nous ne pouvons nous dispenser de lui donner un nom, » répondit le mousse. « Tu as raison, Moko. Appelons-le l'East River, puisqu'il coule à l'orient de l'île. » « Parfait, » dit Moko. « Et maintenant, nous n'avons plus qu'à prendre le courant de l'East River et à le descendre pour atteindre son embouchure. C'est ainsi que nous procéderons demain, Moko. Mieux vaut passer la nuit en cet endroit. Puis, dès la pointe du jour, nous laisserons dériver la yole, ce qui nous permettra de reconnaître la contrée sur les deux bords du rio. « Débarquons-nous ? » demanda Jacques. « Sans doute, » répondit Brillant, « et nous camperons à l'abri des arbres. » Brillant, Moko et Jacques sautèrent sur la berge qui formait le fond d'une petite crique. Après que la yole eut été solidement amarrée à une souche, ils en retirèrent les armes et les provisions. Un feu de bois sec fut allumé au pied d'un gros chêne vert. On soupa de biscuits et de viande froide, on étendit les couvertures sur le sol, et à ces jeunes garçons, il n'en fallait pas davantage pour dormir d'un bon sommeil. À tout événement, les armes avaient été chargées. Mais si quelques hurlements se firent entendre après la tombée du soir, la nuit s'acheva sans alerte. « Allons, en route !» s'écria Brillant, qui se réveilla le premier dès 6 heures du matin. En quelques minutes, tous les trois eurent repris place dans la yole et se laissèrent aller au courant du rio. Ce courant était assez fort. La marée descendait depuis une demi-heure déjà pour qu'il ne fût pas nécessaire de recourir aux avirons. Aussi, Brillant et Jacques s'étaient-ils assis à l'avant de la yole, tandis que Moko, installé à l'arrière, se servait de l'une des rames comme d'une godille afin de maintenir la légère embarcation dans le fil des eaux. « Il est probable, dit-il, qu'une marée suffira pour nous porter jusqu'à la mer si l'East River n'a guère que de 5 à 6 milles, car son courant est plus rapide que celui du Rio Zealand. »« C'est à souhaiter, » répondit Brillant. « En revenant, nous aurons besoin, je pense, de 2 ou 3 marées. »« En effet, monsieur Brillant, et si vous le voulez, nous repartirons sans nous attarder. »« Oui, Moko, » répondit Brillant, « dès que nous aurons vu s'il se trouve ou non quelque terre dans les parages à l'est de l'île Chairman. » Cependant, la yole filait avec une vitesse que Moko estimait à plus d'un mille à l'heure. En outre, l'East River suivait une direction presque rectiligne qui fut relevé à l'est-nord-est d'après la boussole. Son lit était plus encaissé que celui du Rio Zealand et aussi moins large, une 30aine de pieds seulement, ce qui expliquait la rapidité de son cours. Toute la crainte de Brillant était qu'il ne se changeât en rapide, en tourbillon, et ne fût pas navigable jusqu'à la côte. En tout cas, il serait temps d'aviser s'il se présentait quelque obstacle. On était en pleine forêt, au milieu d'une végétation assez serrée. Là se retrouvaient à peu près les mêmes essences qu'à Trapswoods, avec cette différence que chênes verts, chênes lièges, pins et sapins y dominaient. Entre autres, bien qu'il fût moins familiarisé avec les choses de la botanique que Gordon, Briand reconnut un certain arbre dont il se rencontre d'assez nombreux échantillons en Nouvelle-Zélande. Cet arbre, qui déployait le parasol de ses branches à une soixantaine de pieds au-dessus du sol, portait des fruits coniques, longs de 3 à 4 pouces, pointus à leur extrémité et revêtus d'une sorte d'écaille luisante.
« Ce doit être le pin pignon !» s'écria Briand.
« Si vous ne vous trompez pas, monsieur Briand, répondit Moko, arrêtons-nous un instant, cela en vaut la peine. » Un coup de godille dirigea la yole vers la rive gauche, Briand et Jacques s'élancèrent sur la berge.
Quelques minutes après, ils rapportaient une ample récolte de ces pignons, dont chacun contient une amande de forme ovale, enveloppée d'une légère pellicule et parfumée comme la noisette. Précieuse trouvaille pour les gourmands de la petite colonie, mais aussi, ce que Gordon leur apprit après le retour de Briand, parce que ces fruits produisaient une huile excellente. Il importait également de reconnaître si cette forêt était aussi giboyeuse que les autres forêts situées à l'occident du Family Lake. Cela devait être, car Briand vit passer entre les fourrés une bande effarée de nandous et de vigognes, même un couple de ganaques qui filaient avec une merveilleuse rapidité. En fait de volatile, Doniphan aurait eu là quelque beaucoup de fusils à tirer. Quant à Briand, il s'abstint de dépenser inutilement sa poudre, la yole renfermant des provisions en quantité suffisante. Vers 11 heures, il fut manifeste que l'épais massif des arbres tendait à s'éclaircir. Quelques clairières aéraient les dessous de bois. En même temps, la brise s'imprégnait d'une senteur saline qui indiquait la proximité de la mer. Et, quelques minutes plus tard, brusquement, au-delà d'un groupe de superbes chênes verts, une ligne bleuâtre apparut à l'horizon. Le courant entraînait toujours la yole, moins rapidement, il est vrai. Le flot n'allait pas tarder à se faire sentir sur ce lit de l'East River, large alors de 40 à 50 pieds. Arrivé près des rochers qui se dressaient sur le littoral, Moko poussa la yole vers la rive gauche, puis, portant son grappin à terre, il l'enfonça solidement dans le sable, tandis que Briand et son frère débarquaient à leur tour. Quel aspect différent de celui que présentait la côte à l'ouest de l'île Sherman! Ici s'ouvrait bien une baie profonde, et précisément à la hauteur de Sluggy Bay. Mais au lieu d'une large grève de sable bordée par un cordon de récifs, limitée par la falaise qui s'élevait à l'arrière-plan de Wreck Coast, c'était un amoncellement de roches au milieu desquelles, Briand s'en assura bientôt, il eût pu trouver 20 grottes pour une. Cette côte était donc très habitable. Et si le schooner se fût échoué en cet endroit, si son renflouement eût été praticable après l'échouage, il aurait pu s'abriter à l'embouchure de l'East River, dans un petit port naturel auquel l'eau ne manquait pas, même à marée basse. Tout d'abord, Briand avait porté ses regards du côté du large, à l'extrême horizon de cette vaste baie. Développée sur un secteur de 15 milles environ, entre 2 pointes sablonneuses, elle eût mérité le nom de golfe. En ce moment, cette baie était déserte, comme toujours sans doute. Pas un navire en vue, même à son périmètre, nettement découpé sur le fond du ciel. De terre ou d'île, pas même l'apparence. Moko, habitué à reconnaître ces vagues linéaments des hauteurs lointaines qui se confondent souvent avec les vapeurs du large, ne découvrit rien avec la lunette. L'île Sherman semblait être aussi isolée dans les parages de l'Est que dans ceux de l'Ouest. Et voilà pourquoi la carte du naufragé français n'indiquait aucune terre en cette direction. Dire que Briand fut très désappointé, ce serait exagéré. Non, il s'attendait bien à cela. Aussi trouva-t-il tout simple de donner à cette échancrure de la côte la dénomination de Deception Bay, baie déception.
Allons, dit-il, ce n'est pas encore de ce côté que nous pourrons prendre la route du retour.
Eh, monsieur Brillant, répondit Moko, on s'en va toujours, que ce soit par un chemin ou par un autre.
En attendant, je pense que nous ferons bien de déjeuner.
Soit, répondit Brillant, et faisons vite. À quelle heure la yole pourra-t-elle remonter l'East River?
Si nous voulions profiter de la marée, il faudrait s'embarquer à l'instant.
C'est impossible, Moko. Je tiens à observer l'horizon dans des conditions plus favorables, et du haut de quelques roches qui dominent la grève.
Alors, monsieur Brillant, nous serons forcés d'attendre la marée prochaine, qui ne se fera pas sentir dans l'East River avant 10 heures du soir.
Est-ce que tu ne craindras pas de naviguer pendant la nuit? Demanda Brillant.
Non, et je le ferai sans danger, répondit Moko, car nous aurons pleine lune.
D'ailleurs, le cours du rio est si direct qu'il suffira de gouverner à la godille tant que durera le flot. Puis, lorsque le courant descendra, nous essaierons de le remonter à l'aviron, ou, s'il est trop fort, nous ferons halte jusqu'au jour.
Bien, Moko, voilà qui est convenu. Et puisque nous avons une douzaine d'heures devant nous, profitons-en pour compléter notre exploration.
Après le déjeuner et jusqu'à l'heure du dîner, tout le temps fut employé à visiter cette partie de la côte abritée par des massifs d'arbres qui s'avançaient au pied même des roches. Quant au gibier, il semblait être aussi abondant qu'aux environs de Frenchden, et Brillant se permit d'abattre quelques tinamous pour le repas du soir. Ce qui caractérisait l'aspect de ce littoral, c'était l'entassement des blocs de granit. Des ordres véritablement grandioses que cet amoncellement de rochers gigantesques, sorte de champs de Karnak, dont la disposition irrégulière n'était point due à la main de l'homme. Là se creusaient de ces profondes excavations, que l'on appelle cheminées, en certains pays celtiques, et il eût été facile de s'installer entre leurs parois. Ni les halls, ni les storerooms n'eussent manqué pour les besoins de la petite colonie. Rien que sur un espace d'un demi-mille, Brillant trouva une douzaine de ces confortables excavations. Aussi Brillant fut-il naturellement conduit à se demander pourquoi le naufragé français ne s'était point réfugié sur cette partie de l'île Tchermann. Quant à l'avoir visité, nul doute à cet égard, puisque les lignes générales de cette côte figuraient exactement sur sa carte. Donc, si l'on ne rencontrait aucune trace de son passage, c'est que, très probablement, François Baudouin avait élu domicile dans Frenchden avant d'avoir poussé son exploration jusqu'au territoire de l'Est, et là, se trouvant moins exposé aux bourrasques du large, il avait jugé à propos d'y rester. Explication fort plausible que Brillant crut devoir admettre. Vers 2 heures, lorsque le soleil eut dépassé le plus haut point de sa course, le moment parut favorable pour procéder à une rigoureuse observation de la mer au large de l'île. Brillant, Jacques et Moko tentèrent alors d'escalader un massif rocheux qui ressemblait à un ours énorme. Ce massif s'élevait à une centaine de pieds au-dessus du petit port, et ce ne fut pas sans difficulté qu'ils en atteignirent le sommet. De là, lorsqu'ils se reportaient en arrière, le regard dominait la forêt qui s'étendait vers l'ouest jusqu'au Family Lake, dont un vaste rideau de verdure cachait la surface. Au sud, la contrée semblait sillonnée de dunes jaunâtres qu'entrecoupaient quelques noires sapinières, comme dans les arides campines des pays septentrionaux. Au nord, le contour de la baie se terminait par une pointe basse, formant la limite d'une immense plaine sablonneuse située au-delà. En somme, l'île Tchermann n'était véritablement fertile que dans sa partie centrale, où les eaux douces du lac lui déversaient la vie en s'épanchant par les divers rios de ses deux rives. Brillant dirigea sa lunette vers l'horizon de l'Est qui se dessinait alors avec une grande netteté. Toute terre, située dans un rayon de 7 à 8 milles, eût certainement apparu à travers l'objectif de l'instrument. Rien dans cette direction, rien que la vaste mer, circonscrite par la ligne ininterrompue du ciel. Pendant 1 heure, Brillant, Jacques et Moko ne cessèrent de l'observer attentivement, et ils allaient redescendre sur la grève lorsque Moko arrêta Brillant.
« Qu'y a-t-il donc là-bas ? demanda-t-il en étendant la main vers le nord-est. Brillant braqua sa lunette sur le point indiqué. Là, en effet, un peu au-dessus de l'horizon, miroitait une tache blanchâtre que l'œil aurait pu confondre avec un nuage, si le ciel n'eût été absolument pur en ce moment. D'ailleurs, après l'avoir longuement tenue dans le champ de sa lunette, Brillant put affirmer que cette tache ne se déplaçait pas et que sa forme ne s'altérait en aucune façon. « Je ne sais ce que cela peut être, » dit-il, « à moins que ce ne soit une montagne. Et encore, une montagne n'aurait point cette apparence. » Quelques instants après, le soleil s'abaissant de plus en plus vers l'ouest, la tache avait disparu. Existait-il là quelque haute terre, ou plutôt, cette coloration blanchâtre n'était-elle qu'une réflexion lumineuse des eaux? Ce fut cette dernière hypothèse que Jacques et Moko admirent, bien que Brillant crut devoir garder quelques doutes à ce sujet. L'exploration achevée, tous trois regagnèrent, à l'embouchure de l'East River, le petit port au fond duquel était amarrée la yole. Jacques ramassa du bois mort sous les arbres, puis l'alluma du feu, tandis que Moko préparait son rôti de tinamou. Vers 7 heures, après avoir mangé avec appétit, Jacques et Brillant allèrent se promener sur la grève en attendant l'heure de la marée pour repartir. De son côté, Moko remonta la rive gauche du rio où poussaient des pins pignons dont il voulait cueillir quelques fruits. Lorsqu'il revint vers l'embouchure de l'East River, la nuit commençait à tomber. Au large, si la mer s'éclairait encore des derniers rayons solaires qui glissaient à la surface de l'île, le littoral était déjà plongé dans une demi-obscurité. Au moment où Moko eut rejoint la yole, Brillant et son frère n'étaient pas encore de retour. Comme ils ne pouvaient être éloignés, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Mais voilà que Moko fut très surpris d'entendre des gémissements et en même temps des éclats de voix. Il ne se trompait pas, cette voix, c'était celle de Brillant. Les deux frères couraient-ils donc quelque danger? Le mousse n'hésita pas à s'élancer vers la grève après avoir tourné les dernières roches qui fermaient le petit port. Soudain, ce qu'il vit l'empêcha de se porter plus avant. Jacques était aux genoux de Brillant. Il semblait l'implorer, lui demander grâce. De là ces gémissements qui étaient arrivés à l'oreille de Moko. Le mousse aurait voulu se retirer par discrétion. Il était trop tard. Il avait tout entendu et tout compris. Il connaissait maintenant la faute que Jacques avait commise et dont il venait de s'accuser à son frère. Et celui-ci s'écriait. « Malheureux ! Comment sais-toi ? Toi qui as fait cela ? Toi qui es cause ? Pardon, frère, pardon ! Voilà donc pourquoi tu te tenais à l'écart de tes camarades ! Pourquoi tu avais peur d'eux ? Ah, qu'ils ne sachent jamais ! Non, pas un mot, pas un mot, à personne !» Moko aurait donné beaucoup pour ne rien savoir de ce secret. Mais maintenant, feindre de l'ignorer vis-à-vis de Brillant, cela lui eût trop coûté. Aussi, quelques instants après, lorsqu'il le trouva seul près de la yole, « Monsieur Brillant, dit-il, j'ai entendu. »« Quoi ? Tu sais ce que Jacques ?»« Oui, monsieur Brillant, et il faut lui pardonner. »« Les autres lui pardonneraient-ils »« Peut-être, répondit Moko. En tout cas, mieux vaut qu'ils n'apprennent rien. Et soyez sûr que je me tairai. »« Ah, mon pauvre Moko !» murmura Brillant, en serrant la main du mousse. Pendant 2 heures, jusqu'au moment d'embarquer, Brillant n'adressa pas la parole à Jacques. Celui-ci, d'ailleurs, resta assis, au pied d'une roche, certainement plus abattu, depuis que, cédant aux instances de son frère, il avait tout avoué. Vers 10 heures, le flot s'étant fait sentir, Brillant, Jacques et Moko prirent place dans la yole. Dès qu'elle fut démarrée, le courant l'entraîna rapidement. La lune, s'étant levée un peu après le coucher du soleil, éclairait suffisamment le cours de l'East River pour que la navigation devint praticable jusque vers 00h30. Le jusant, qui s'établit alors, obligea de prendre les avirons, et pendant 1 heure, la yole ne gagna pas d'un mille en amont. Brillant proposa donc de mouiller jusqu'au jour naissant afin d'attendre la marée montante, ce qui fut fait. À 6 heures du matin, on se remit en route et il était 9 heures lorsque la yole eut retrouvé les eaux du Family Lake. Là, Moko rehissa la voile et, avec une jolie brise qui prenait par le travers, il mit le cap sur Frenchden. Vers 6 heures du soir, après une heureuse traversée, pendant laquelle Brillant ni Jacques n'étaient guère ressortis de leur mutisme, la yole fut signalée par Garnett qui pêchait sur les bords du lac. Quelques instants plus tard, elle accostait la digue et Gordon accueillait avec empressement le retour de ses camarades.